إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, on continue donc ce soir, inshallah ta'ala, l'étude de cette épître, les trois fondements de l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. On a vu dans les deux précédentes assises la première partie de l'introduction de ce livre dans laquelle l'auteur rahimahullah nous a exposé quatre choses qui sont obligatoires pour l'ensemble d'entre nous et qu'il a déduit de la sourate Al-Asr. Nous allons donc commencer ce soir la deuxième partie de cette introduction, dans laquelle l'auteur, rahimahullah ta'ala, va évoquer trois questions, qui sont, premièrement, l'obligation de l'obéissance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, l'obligation de vouer un culte exclusif à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la troisième question concerne l'alliance et le désaveu. Il a donc dit, rahimahullah ta'ala, اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. Il dit, sache, et on a vu dans la première assise qu'il dit cela afin d'attirer l'attention du lecteur et de l'auditeur. Il dit donc sache, c'est-à-dire apprends ce qui va suivre. Qu'Allah te fasse miséricorde. Il invoque pour toi afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse miséricorde. Et comme on l'a vu précédemment, ceci nous indique qu'il convient à l'enseignant de faire preuve d'indulgence et de miséricorde envers les étudiants. Et il doit pour cela invoquer en leur faveur et également les encourager à l'étude de la science. Et ceci fait partie des plus grandes causes afin que les auditeurs, afin que le lecteur accepte la vérité qui va venir par la suite. Et également, cette invocation, elle nous prouve la bonne intention du Cheikh, rahimahullah ta'ala, et qu'il ne recherche à travers cet écrit que quoi ? Que t'adresser un conseil, à te faire profiter, à t'orienter vers le chemin droit. Ensuite, il a dit, rahimahullah, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire. Ceci désigne le fait que ce qui va venir n'est pas seulement une chose recommandée, mais ce sont des choses qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre. Donc, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam ont commandé. Car le shir rahimahullah, il n'a pas imposé ces questions de lui-même. Le Cheikh rahimahullah, il n'a pas imposé de lui-même les questions qu'il va nous présenter. Mais l'obligation, elle provient seulement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce dans ce qu'il a révélé dans son noble livre, Al-Qur'an, et dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, rahimahullah, il est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane. C'est-à-dire que ceci est obligatoire aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Car la base dans les obligations et la base dans la législation est que les hommes et les femmes sont semblables en termes d'obligations et d'interdits. Sauf ce qui est spécifié par une preuve. À titre d'exemple, la prière en groupe dans les mosquées n'est obligatoire que pour les hommes, en dehors des femmes. Également, la prière du vendredi, elle est obligatoire pour les hommes, en dehors des femmes. De la même manière, l'interdiction de porter de l'or ou l'interdiction de porter de la soie ne concerne que les hommes et non pas les femmes, car tout ceci est spécifié par les preuves. Tout ceci est spécifié par les preuves. Sinon, la base est que l'homme et la femme sont semblables en ce qui concerne les obligations et les interdictions, ainsi que toutes les autres questions de la religion. Et parmi ces choses obligatoires, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, il y a l'apprentissage de la science. Ceci est une obligation qui concerne aussi bien les hommes que les femmes. Pourquoi ? Car il n'est pas possible d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de lui vouer cette adoration, celle pour laquelle il nous a créés, si ce n'est en apprenant la science profitable. Si ce n'est en apprenant la science qui va nous permettre de savoir comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une obligation, comme on l'a dit, qui concerne aussi bien les hommes que les femmes. Ils doivent tous apprendre les affaires de leur religion et notamment tout ce qui a trait à la croyance, à la aqidah. Il a dit ensuite, rahimahullah, il est obligatoire pour chaque musulman et pour chaque musulmane d'apprendre trois choses et de les mettre en pratique. Donc les trois choses, on les a déjà mentionnées. L'obligation d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'obligation de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et l'alliance et le désaveu. Et on va faire ce que l'on peut parmi ces questions dans cette assise, inshallah ta'ala. Et le cheikh ici, il a insisté, il a répété, il est obligatoire pour nous d'apprendre trois choses et de les mettre en pratique. Car comme on l'a vu, la science n'est pas une finalité. La science n'est pas une finalité. Mais la finalité, c'est quoi ? C'est de mettre en pratique cette science. C'est de mettre en pratique cette science que tu apprends. Il a donc dit, il est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane d'apprendre trois choses et de les mettre en pratique. Et le cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il fait ici une parenthèse très importante. Il dit, selon le sens résumé de sa parole, hafidhahullah, l'apprentissage consiste à prendre la science des ulama, à prendre la science des savants, à la mémoriser, à la comprendre et à la concevoir comme il se doit. Ceci est l'apprentissage. Et l'apprentissage ne consiste pas seulement à lire ou à consulter des livres. Ceci n'est pas de l'apprentissage. Mais l'apprentissage, c'est seulement le fait de prendre la science auprès de ces gens, de la mémoriser, de la comprendre et de la percevoir totalement. Ceci est l'apprentissage correct. Ceci est la méthode d'apprentissage juste et authentique. Quant au fait de se contenter simplement de lire ou de consulter des livres, ceci n'est pas suffisant pour l'apprentissage. Même si cela est demandé, même s'il est demandé aux musulmans de lire des livres, de consulter des livres afin d'accroître ses connaissances et qu'il y a un intérêt en cela, ceci n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant de se limiter et se contenter à l'apprentissage à travers les livres. Il dit ensuite, il est même interdit d'étudier seulement dans les livres, comme est la situation actuelle. Car le fait d'étudier seulement dans les livres est très dangereuse, et cela comporte de nombreux méfaits, et notamment le ta'aloum. Le ta'aloum, qui consiste à ce que la personne pense qu'elle a de la science, et qu'elle se prenne pour une personne de science, alors que ce n'est pas le cas. Et le cheikh, il dit, hafidhahullah, at-ta'alum, le ta'alum, il est beaucoup plus nuisible que l'ignorance. Car l'ignorant, il sait qu'il est ignorant. Et il s'arrête à ses connaissances. Il s'arrête à ses limites. Alors que le muta'alim, celui qui pense avoir de la science, il se prend pour un savant. Il se voit comme étant une personne de science. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre licite ce qu'Allah a interdit. Où il va interdire ce qu'Allah a rendu licite, il va parler sans science et il va prononcer des paroles au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala sans aucune connaissance. Cette question est donc très dangereuse et il faut prêter attention à cela. La science, elle ne se prend pas seulement des livres, mais les livres, ce sont juste des moyens afin d'obtenir la science. Quant à la science, réellement, elle se prend où? Elle se prend dans les assises de science, auprès des ulama, auprès des savants, auprès de leurs étudiants, et ce, génération après génération. Quant aux livres, c'est seulement des moyens qui nous permettent de rechercher la science et d'apprendre la science. Ceci est donc une parenthèse importante. Surtout que le ta'alum, le fait que des personnes prétendent avoir la science alors qu'elles ne l'ont pas, alors qu'elles ne se sont jamais assises devant les gens de science, devant les mashayikh, devant les ulama, qu'elles n'ont jamais connu ce qu'est qu'apprendre la science auprès d'un savant. Ces personnes-là ont corrompu beaucoup plus qu'elles n'ont réformé, car ils ne connaissent pas la science et la voie des gens de science. C'est pour cela qu'il est important pour le musulman d'emprunter le bon chemin dans l'apprentissage de la science. Ensuite, le shaykh, il a dit, rahimahullah, al-oula, la première, c'est-à-dire la première des choses qu'il est obligatoire pour nous parmi ces trois questions qu'il va nous mentionner ici. أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن طاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. La première chose qui est obligatoire pour nous, pour tout musulman et pour toute musulmane, c'est qu'Allah nous a créés. Il nous a accordé notre subsistance et il ne nous a pas laissés sans but. En effet, il nous a envoyé un messager. Quiconque lui obéit entrera au paradis, et quiconque lui désobéit entrera en enfer. Le cheikh, il dit donc, rahimahullah, Allah nous a créés, c'est-à-dire qu'il nous a créés à partir du néant, alors que nous n'étions rien et que nous n'existions point. Comme il l'a dit, subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Insan, dans le premier verset, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés à partir du néant. Et il nous a accordé notre subsistance. Comme il le dit le shir, rahimahullah, la première chose, c'est qu'Allah nous a créés et nous a accordé notre subsistance. C'est-à-dire que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, il a créé également ce dont on avait besoin comme subsistance, parmi la nourriture, la boisson, les vêtements, les logements, les moyens de transport et autres. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa science complète, il sait que l'on a besoin de ces choses. Il a donc mis à notre disposition ce qui se trouve dans les cieux et dans la terre, afin que l'on puisse en tirer profit, afin de rester vivant et de rester sur cette terre. Mais dans quel but? Dans le but de concrétiser ce pour quoi Allah nous a créés, c'est-à-dire le fait de lui vouer un culte exclusif dans l'adoration, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordées, il nous les a accordées afin que l'on s'en serve d'aide pour atteindre notre objectif qui est quoi? Qui est de vouer notre adoration à Allah seul, subhanahu wa ta'ala, sans ne lui donner aucun associé. Il a dit ensuite, rahimahullah, وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا. Et il ne nous a pas laissé sans but. C'est-à-dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas créés, puis donné notre subsistance, puis il nous a laissés comme ça, sans aucun but. Sans nous donner d'ordre et sans nous donner d'interdit. Il a dit dans son noble livre, subhanahu wa ta'ala, dans le verset 115 de Surat al-Mu'minun, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, au verset 36 de Surat al-Qiyamah, أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتَرَكَ سُدًا. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? Et il dit, subhanahu wa ta'ala, dans le verset 27 de Surat Sad, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Nous n'avons pas créé le ciel et la terre, et ce qui existe entre eux en vain. c'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Ceci, c'est la pensée des mécréants. Il dit ensuite, selon la traduction des sens rapprochés, « Malheur à ceux qui ont mécru par le feu qui les attend. » Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés et il a créé pour nous ses subsistances et tous ses moyens qu'il a mis à notre disposition dans un but immense et pour un but noble, qui est le fait qu'on lui voue un culte exclusif dans l'adoration subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas créés comme le bétail, qui ont été créés pour les intérêts de l'homme, qui viennent dans cette vie, puis meurent et ne font que servir à l'intérêt des serviteurs, sans recevoir d'ordre et sans recevoir d'interdit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés pour un noble but qui est quoi? Qui est le fait de l'adorer en lui vouant un culte exclusif. Comme il a dit dans Surat al-Dhariyat, au verset 56, « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et on reviendra sur ce verset, inshallah ta'ala, lorsque l'on étudiera la troisième partie de l'introduction. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas créés simplement pour que l'on vive, que l'on se promène dans ce bas monde, que l'on mange, que l'on boive, que l'on profite des bienfaits qu'il nous accorde ici-bas. Mais cette vie, cette dunya, la vie d'ici-bas, c'est juste un champ de semences. C'est un marché pour la demeure de l'au-delà. C'est un marché pour la demeure de l'au-delà. Tu dois prendre tes provisions ici-bas. Et ces provisions, c'est quoi? Ce sont les œuvres pieuses. Ce sont les œuvres pieuses que tu dois vouer exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Car après ce bas monde, qu'est-ce qu'il va se passer? Tu vas mourir et tu vas passer de ce bas monde à la vie de l'au-delà. Tu seras enterré dans ta tombe. Puis tu seras ressuscité et Allah subhanahu wa ta'ala te demandera des comptes et tu seras rétribué en fonction de ses œuvres. Ceci est donc l'objectif de ce bas monde. Ad-dunya, ce bas monde, c'est une demeure d'œuvre. Quant à l'au-delà, c'est la demeure de la rétribution. Ou bien le serviteur ira au paradis et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi les gens du paradis. Ou bien il ira en enfer et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a donc pas laissé sans but. Mais il nous a créés pour cette cause immense. Et ce, contrairement à ce que pensent les gens athées, qui pensent qu'ils sont ici dans ce bas monde et qu'il n'y aura rien après cela. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre à leur sujet, « وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهَرُ » Et ils dirent, « Il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas. Nous mourons et nous vivons, et seul le temps nous fait périr. » Ceci est la parole de qui? La parole des gens athées, ceux qui ne croient pas à la résurrection et ceux qui ne croient pas à l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a réprimandés et leur a répondu lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala afan naj'alu al-muslimin kal-mujrimin ma lakum kayfa tahkumun. Traiterons-nous ceux qui se sont soumis comme les criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Et ceci sont les versets 35 et 36 de sourate Al-Qalam. Quant au verset précédent concernant la parole des athées, c'est le verset 24 de la sourate Al-Jathiyah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit dans son livre, afin de répondre à la croyance de ces gens, « Am naj'alu alladhina amanu wa amilu s-salihati kal-mufsidina fil-ard, am naj'alu al-muttaqina kal-fujjar » Traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent des bonnes œuvres comme les corrupteurs sur terre, ou traiterons-nous les pieux comme les pervers? Ceci est le verset 28 de la sourate Sad. Donc ceci est impossible. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala traite de la même manière dans l'au-delà celui qui ici-bas a cru en lui et a accompli de nombreuses bonnes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala ne traitera pas de la même manière les pieux et les pervers. Mais les pieux iront au paradis, bi'idhnillahi ta'ala, quant aux mécréants, ils iront dans le feu de l'enfer. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Ensuite il dit, rahimahullah, Allah nous a créés, il nous a accordé notre subsistance et il ne nous a pas laissés sans but. Au contraire, il nous a envoyé un messager. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé un messager? Car l'adoration, cette adoration pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, il n'est pas possible pour nous de l'accomplir de nous-mêmes sans savoir comment elle doit avoir lieu. Il n'est pas permis non plus, dans l'adoration, de faire du suivi aveugle d'un tel ou un tel parmi les gens. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers, alayhimu salatu wassalam, afin qu'ils exposent aux gens comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Car les adorations, elles sont tawqifiyah, c'est-à-dire qu'elles sont limitées au texte. Il n'est pas permis d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est parce qu'il a légiféré, si ce n'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Les adorations, elles se restreignent donc à ce avec quoi sont venus les messagers, alayhimus salatu wassalam. Ceci est donc une des sagesses de l'envoi des messagers, alayhimus salatu wassalam. Le fait qu'ils exposent aux gens comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'ils interdisent aux gens le shirk, le polythéisme, ainsi que la mécréance. Et ceci fait partie du rôle des messagers, alayhimus salatu wassalam. C'est même une de leurs plus importantes fonctions. Et c'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le célèbre hadith que rapporte l'imam muslim rahimahullah d'après Aïcha radiallahu ta'ala anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, son œuvre sera rejetée. Car, comme on l'a dit, l'adoration est restreinte au texte de la législation, ou bien une preuve du Coran, ou bien une preuve de la Sunna. Quant aux innovations, les choses qui n'ont pas été accomplies par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni par ses compagnons, radiallahu ta'ala anhum, alors elles sont rejetées et elles ne sont pas acceptées. C'est pour cela qu'il est obligatoire aux musulmans d'apprendre la science afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance et ne pas se contenter du suivi aveugle, car le suivi aveugle à ce sujet est rejeté. Si tu suis aveuglément une personne alors qu'elle accomplit des innovations et que tu l'imites dans cela, alors ton œuvre est rejetée, tout comme la sienne. Et la preuve est le hadith que l'on vient de citer. Les adorations, elles sont donc limitées à ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous a donc envoyé un messager, et ce messager, c'est Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu à nous afin de nous exposer pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, c'est-à-dire pour qu'on l'adore seul, sans aucun associé. Et il est venu également nous exposer comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que nous interdire le shirk, le polythéisme, le kufr, la mécréance, ainsi que les péchés. Ceci est la fonction et le rôle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a certes transmis ce message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce de la meilleure manière, et il a été loyal envers sa communauté sallallahu alayhi wa sallam. Il a clarifié toute la religion et il nous a laissé sur une voie blanche, claire, de jour comme de nuit. Nul ne s'en écarte si ce n'est une personne qui court à sa perte. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Et ceci est le verset 3 de la sourate Al-Ma'ida. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a dit: Faman ata'ahu, quiconque lui obéit, c'est-à-dire quiconque obéit au messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il se soumet à ses ordres, il se soumet, il obéit aux ordres du messager sallallahu alayhi wa sallam, et il délaisse tout ce qu'il a interdit. Quiconque lui obéit entrera au paradis, et quiconque lui désobéit, c'est-à-dire qu'il transgresse ses interdits et ne se soumet pas à ses ordres, entrera en enfer. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Quiconque obéit au messager, il a certes obéi à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate An-Nisa, donc le verset précédent, c'était le verset 80 de Sourate An-Nisa. Et celui-ci, c'est le verset 64. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Et nous n'avons envoyé de messager que pour qu'il soit obéi par la permission d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 54 de Sourate An-Nur: وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا. Et si vous lui obéissez, c'est-à-dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 56, toujours dans Sourate An-Nur: وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et obéissez au messager afin qu'on vous fasse miséricorde. Tous ces versets, ils nous prouvent donc l'obligation d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, quiconque lui obéit et quiconque suit la guidée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a alors emprunté le bon chemin, il a alors bien guidé, inshallah ta'ala, et il entrera au paradis. Quant à celui qui lui désobéit, il s'est certes égaré et il entrera en enfer, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement mentionné cela. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, et il nous a annoncé ici une très bonne nouvelle pour celui qui sait mettre en pratique ce que l'on vient de mentionner. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, toute ma communauté entrera au paradis. Toute ma communauté entrera au paradis. À l'exception de qui? Sauf ceux qui refusent. Les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, lorsqu'ils ont écouté cette parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été surpris. Ils se sont étonnés. Ils lui ont alors dit: ô messager d'Allah, mais qui pourrait refuser? En effet, qui pourrait refuser d'entrer au paradis? Il a alors dit, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque m'obéit entrera au paradis. Et quiconque me désobéit a certes refusé. C'est-à-dire que lorsque tu désobéis au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que la personne désobéit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'elle refuse de suivre sa voie, alors c'est comme si elle refusait quoi? C'est comme si elle refusait d'entrer au paradis. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous compter parmi ceux qui obéissent au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre hadith qui est rapporté par l'imam muslim rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un juif ni un chrétien qui entend parler de moi puis qui ne croit pas en ce avec quoi je suis venu sans qu'il n'entre en enfer. C'est-à-dire que toute personne parmi les juifs et les chrétiens qui ont entendu parler du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui n'ont pas suivi la religion avec laquelle il est venu, alors ils entreront en enfer. Ainsi, comme l'a dit le shaykh rahimahullah, quiconque obéit au messager d'Allah entrera au paradis et quiconque lui désobéit entrera en enfer. Ceci est donc une chose qui te permet de distinguer entre les croyants et les mécréants. Les croyants, ils obéissent au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux mécréants, ils ont refusé de suivre sa voie, ils se sont détournés de celle-ci et ils ont mécru en lui sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite le cheikh il dit rahimahullah, wa dalil, et la preuve. Car comme on l'a dit, le cheikh rahimahullah, en plus de nous enseigner la science, il nous apprend comment transmettre cette science, de ne pas transmettre une chose si ce n'est en apportant la preuve de celle-ci. Et c'est très important, notamment dans la croyance, notamment dans la aqidah, que tu apprennes ta aqidah en l'apprenant avec les preuves, en prenant connaissance des preuves de cette croyance que tu apprends. Il a donc dit wa dalil, et la preuve, c'est-à-dire la preuve de l'envoi du messager sallallahu alayhi wa sallam et de l'obligation de son obéissance. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'aun rasula fa'asa fir'aun ar-rasul fa'akhadhnahu akhdhan wabila. Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous De même que nous avions envoyé un messager à Pharaon, Pharaon désobéit alors au messager, nous le saisîmes donc rudement. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il nous informe qu'il nous a envoyé un messager. Et ce messager, comme on l'a dit, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé aux deux pesants, aux hommes et aux djinns, car tous sont concernés par son message. Car le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à l'ensemble des gens, et ce, jusqu'à la venue de l'heure, car il n'y a pas de prophète après lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc, selon la traduction des sens rapprochés, « Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous. » C'est-à-dire pour être témoin contre vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque viendra le jour de la résurrection. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam témoignera alors qu'il nous a transmis le message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a établi sur nous la preuve, qu'il nous a exposé la preuve. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 165 de Surat An-Nisa, « Rusulan mubashirin wa mundirin » لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُولِ. Messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers, il n'y ait plus d'arguments pour les gens devant Allah. C'est-à-dire qu'au jour de la résurrection, personne ne viendra et dira « Je n'ai pas su, je ne savais pas que j'ai été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne savais pas ce qui était obligatoire pour moi et je ne savais pas ce qui était interdit. » Car les messagers, alayhimu salatu wassalam, ils ont transmis le message de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ceci est donc la sagesse de l'envoi des messagers, alayhimu salatu wassalam. D'exposer la preuve, d'établir la preuve sur les serviteurs et d'orienter ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, souhaite guider parmi ses serviteurs. Ils sont donc venus pour guider et orienter ce qu'Allah veut guider parmi ses serviteurs et pour établir la preuve pour les entêtés et ceux qui mécroient et refusent de suivre ce chemin. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc dans ce verset, selon la traduction des sens rapprochés, « Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. » Et ce messager qui a été envoyé à Pharaon, c'est Moussa alayhi salatu wassalam. Et Pharaon, c'est le roi et le tyran d'Égypte qui a prétendu avoir la seigneurie. Fa'asa Fir'aun ar-Rasul. Pharaon désobéit alors au messager. C'est-à-dire que Pharaon a mécru au message de Moussa alayhi salam. Et il a refusé de suivre Moussa alayhi salam. Qu'est-ce qui s'est alors passé? Fa'akhadnahu akhdan wabila. Nous le saisîmes donc rudement. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a saisi Pharaon et lui a infligé un châtiment. Et quel est ce châtiment qu'il lui a infligé? Le premier châtiment, c'est qu'il l'a noyé, lui et son peuple, dans la mer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 136 de Surat Al-Araf, فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. Alors, nous nous sommes vengés d'eux. Nous les avons noyés dans les flots parce qu'ils traitaient de mensonges nos signes et n'y prêtaient aucune attention. Ceci est donc le premier châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a infligé à Pharaon et à son peuple pour avoir désobéi au messager Moussa alayhi salam. Le deuxième châtiment est dans le barzakh, la vie entre ce bas monde et l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 46 de Surat Ghafir, An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya. Ils sont exposés au feu matin et soir. C'est-à-dire que dans le barzakh, avant l'au-delà, les gens de Pharaon et son peuple sont exposés matin et soir au feu, et ce jusqu'à la venue de l'heure. Et ce verset, c'est une des preuves de quoi? Du châtiment de la tombe. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Le troisième châtiment, c'est lorsqu'ils seront ressuscités et qu'ils seront jetés en enfer, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la suite du verset, toujours le verset 46 de Surat Ghafir, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Et le jour où leur arrivera, on dira « Faites entrer les gens de Pharaon au plus dur des châtiments ». Donc, comme vous le voyez à travers ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala a infligé à Pharaon et à son peuple trois châtiments. Le premier lorsqu'il les a noyés dans la mer, le deuxième dans le barzakh, et ce, car ils sont exposés au feu matin et soir jusqu'à la venue de l'heure. Et le troisième, lorsqu'ils seront ressuscités, au jour de la résurrection, ils entreront en enfer, et ce pour aller au plus dur du châtiment, et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Telle est la rétribution de Pharaon et de son peuple. Pourquoi? Car ils ont désobéi au messager. Ils ont refusé de suivre Moussa alayhi salam. Il en est donc de même pour quiconque refuse de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et leur châtiment sera même encore plus sévère que le châtiment du peuple de Pharaon, car Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des messagers. Ainsi, quiconque lui désobéit, sa sentence et son châtiment sera plus dur et plus sévère. Ce verset, il nous prouve donc la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, par l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et l'objectif de son envoi, qui est qu'il nous a orienté le chemin à suivre. Il nous a montré le chemin de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a montré comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala et comment se rapprocher de lui de la meilleure manière. C'est pour cela que quiconque obéit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entrera au paradis, et quiconque lui désobéit entrera en enfer, comme les gens de Pharaon et son peuple lorsqu'ils ont désobéi à leur messager Moussa alayhi salatu wa salam. Ainsi, tous les ennemis des messagers alayhi salatu wa salam et tous ceux qui refusent de se soumettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à suivre sa voie, alors telle sera leur destination. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Ceci était donc la première des trois questions que l'auteur rahimahullah ta'ala a souhaité nous exposer ici dans cette introduction, qui est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, nous a accordé notre subsistance et qu'il ne nous a pas laissé sans but, mais il nous a envoyé un messager sallallahu alayhi wa sallam, quiconque lui obéit entrera au paradis et quiconque lui désobéit entrera en enfer. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de faire partie de ceux qui obéissent à son messager et qui suivent sa voie de la meilleure manière. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra. Et on continuera la semaine prochaine inshallah ta'ala avec les deux autres questions. Barakallahu fikum.